Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ils ont pris le repas dans le grenier, peut-être leur dernier repas ensemble. Frédéric lui demande : Tu veux vraiment savoir ? Didier lui dit : Oui. Frédéric lui dit : Attention, peut-être ce que tu vas apprendre, ce n'est pas bon à savoir. Je le sais, mais je veux essayer. Et ils sont partis en direction de Barbès. Là, ils arrivent devant un immeuble sans âge de 4 étages, dans une rue minable. Frédéric lui dit, décidément, ton histoire te mène dans des lieux bien lugubres. Didier lui dit, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai vécu un moment dans un appartement très luxueux. Ils entrent dans l'immeuble. L'allée ressemble à l'autre immeuble. Didier regarde aux boîtes aux lettres le nom de la pierre. C'est au premier étage. Frédéric demande : Nous y allons ? Didier hausse ses épaules et demande : Nous y allons ? Frédéric lui dit : Oui, puisqu'on en est là. Pourquoi ? Tu ne veux plus ? Didier lui dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. J'appréhende. Puisque l'on est là, il faut y aller. Allez, autrement, tu vas le regretter. Et ils y vont. Avant de sonner, Didier demande : Qu'est-ce qu'on dit ? Frédéric réfléchit et dit : Nous dirons que nous sommes de la mairie et que nous faisons une enquête sur les gens pour savoir qui ils sont. Didier sonne. La porte s'ouvre. C'est une femme de grande taille, maigre, cheveux gris, visage rond, habillée d'une blouse bleue et de pantoufles charentaises rouges, avec des chaussettes. Elle fait « Oui ?» Frédéric lui dit « Pardonnez-moi, madame, de vous déranger, mais nous faisons une enquête sur les gens du quartier pour la mairie. » Elle leur dit « Entrez !» Ils entrent. Petit couloir, tout sombre. Elle leur dit « Venez, nous allons à la salle à manger. » Ils la suivent. Elle ouvre une porte, ils entrent. C'est une pièce moyenne, meublée, salle à manger, brute, en bois et PVC noir. Elle leur dit « Asseyez-vous. » Ils vont s'asseoir à table. « Vous désirez boire quelque chose ?» Frédéric lui dit « Non, merci, madame. Nous venons de déjeuner. » Elle en fait « Ah !» Elle va s'asseoir face à eux. « Alors ?» Frédéric demande « Voilà, nous faisons une enquête pour mieux connaître les gens du quartier. » Elle lui dit « C'est pas pour nous expulser au moins ?»« Non, pas du tout, madame. » Elle lui dit « Parce que la plupart du temps, lorsque l'on fait ce genre de sondage, c'est pour expulser les gens. » Et il lui dit « Non. Ça fait longtemps que vous vivez ici ?» Elle lui dit « Quelques mois seulement. Vous habitiez où avant ?»« À Montparnasse. » « Pourquoi ce déménagement ?» Elle lui répond « Parce que nous n'étions pas bien. » C'est-à-dire que le quartier et l'appartement où nous vivions nous rappelaient des tas de souvenirs, trop de souvenirs, des souvenirs que l'on voulait oublier, mon mari et moi. Didier lui demande, lesquels ? Nous avons eu des malheurs. Mon fils a disparu, il avait 15 ans, il faisait des fugues et... Un jour, il n'est pas revenu. C'était un brave garçon, intelligent et très sensible, mais instable. Il disparaissait souvent. Et pourtant, son beau-père s'en occupait beaucoup. Il l'aimait bien. Didier lui demande, « Vous avez une photographie de lui ?» Elle lui demande, « Pourquoi faire ?» Il lui répond, pour voir, comprendre, essayer de comprendre, elle lui dit. Comprendre quoi ? Il fuguait et c'est tout. Quant à savoir pourquoi, il n'y a que lui qui aurait pu nous le dire. Je crois qu'il aimait trop sa liberté. La vie de famille, c'était pas fait pour lui. Elle se lève et dit. Bon, je vais vous chercher la photo. Elle sort de la pièce. Frédéric lui dit, tu n'aurais pas dû lui demander, ça lui a déjà fait de la peine de parler de son fils. Il lui dit, il faut bien que tu saches, Frédéric lui dit, savoir quoi ? Que tu faisais des fugues ? Il y a des tas de jeunes qui en font. Moi aussi, Didier lui dit, tu parles comme un vieux, on dirait que tu as eu des problèmes avec ta famille. Frédéric lui dit, oui, mais je m'en rappelle. Et c'est récent. La porte s'ouvre. La femme revient. Et s'assoit à table. Elle leur tend une photo. C'est la photographie d'un jeune garçon de 14 ans à peu près. Grand, mince, blond. Les cheveux épais. Habillé d'une façon simple. Avec un pantalon beige, un blouson marron. Il y a des bleus, les yeux d'un bleu profond, très beau. Il sourit et est assis dans un fauteuil. Didier regarde bien la photo. Quelque chose lui serre le corps. Elle lui dit « Beau garçon !» Il lui fait « Oui. Vous vivez seul ?» Elle lui dit « Oui, mon mari est mort. On l'a trouvé dans le couloir d'une cave, mort. Il a été tué à coups de matraque. On ne sait pas pourquoi. » Vadeï demande « Il y a longtemps de ça ?» Elle lui dit « Oui, 2 ans, après la disparition du petit. » Je suis venu ici. J'ai des petits revenus. Je fais le ménage. Voilà. Didier lui dit merci, madame. Il se lève. Frédéric aussi. Elle leur dit c'est tout. Didier lui dit oui. Elle se lève et les raccompagne. Sorte du séjour. Au revoir, madame.
Au revoir.
Et ils sortent. Une fois qu'il est parti, elle... ouvre une porte. C'est une chambre. Dans un lit à 2 places, est couché un homme, gros, chauve, le visage ridé. Il lui demande « Ils sont partis ?» Elle lui fait « Oui !» Il lui demande « Comment est-il ?» Elle lui dit « Bien !» Il lui fait « Tant mieux qu'il ne sait jamais !» Elle lui fait « Tu as peut-être raison !» « Tu veux ta piqûre ?» « Oui !» Elle va vers la table de nuit où se trouve dessus tout ce qu'il faut pour préparer une piqûre. Elle la prépare. Et le pique. Hop. Merci. Et lui dit, tu crois qu'il aurait pu me pardonner? Et lui dit,
je ne sais pas, il vaut mieux qu'il ait oublié.
Il lui dit, tu veux me desserrer les sangles? Elle lui dit,
tu me jures de ne pas en faire de bêtises?
Il lui dit, non, tu vois bien que je suis trop faible. Elle relève la couverture. Il a des sangles à la poitrine et aux jambes. Qui le fixe au lit. Elle lui desserre les sangles. Il lui dit « Encore, j'ai mal !» Elle lui desserre un peu plus. Et d'un geste brusque, il se soulève d'un bond. De ses 2 bras et de ses jambes, il se défait de ses sangles. Qui sont tombés à terre. Il est debout. Elle le fait tomber. Et il la fait tomber à terre. Oh ! Elle fait le geste de se relever. D'un geste, il la fait retomber à terre. Oh ! Elle crie, non ! Tu ne vas pas faire ça ! Il lui met le pied sur sa poitrine. Elle lui dit, j'en peux plus de vivre comme ça. Elle lui dit, laisse-moi me relever. Il lui fait, non, Il a toujours son pied sur la poitrine. Et d'une main, il prend un pleurichon. Il lui met. Sur la figure. Elle se défend comme elle peut. Mais il est trop fort. Et il a ses mains et les pieds sur la poitrine. Elle remue les pieds. Mais elle étouffe. Elle étouffe. Lui continue à serrer, à serrer, à serrer. Pardonne-moi, mais il le faut. Tu sais que je t'ai jamais aimé. J'ai jamais vraiment aimé. Je suis marié avec toi. C'est pour l'autre. Tu comprends? C'est pour l'autre. Elle a les yeux horrifiés. Il continue. À la serrer. Elle, elle essaie de remuer. Il lui dit, ne bouge pas, ça sert à rien. Tu te fatigues pour rien. Tu ferais mieux de te laisser aller. Ça se passera le mieux possible. Tu comprends? Je ne peux pas faire autrement. Tu m'as gardé des années. J'ai bien le droit de prendre ma liberté. Il sent qu'elle étouffe. Il lui dit, voilà, ce sera bientôt fini. Ouf. Elle bouge de moins en moins. Ses yeux restent fixes. Elle ne bouge plus. Continue à serrer. À serrer. On ne sait jamais. Puis, il lâche le pelochon. Ouf. Ça a été long. Il va à l'armoire, l'ouvre, prend des vêtements, une chemise, cravate, un costume marron, puis des chaussures. Et il s'habille. Une demi-heure plus tard, il est habillé et sort de l'appartement. Juste où il sort de l'appartement, la porte de l'autre appartement s'est ouverte et apparaît une vieille femme, petite maigre, cheveux gris, robe à petits pois et sac noir. Elle le regarde bien et lui dit,
« Mais c'est Monsieur Lapierre !»
Il lui dit, « Oui. »«
Vous êtes enfin guéri ?»
Il lui fait, « Oui. »
Elle lui dit, « Depuis le temps, ça doit vous faire tout drôle de sortir de chez vous et votre femme. »
Il lui dit, « Elle va très bien, mais elle se repose. Maintenant, c'est elle qui est fatiguée. »
Elle lui dit, « Ça doit être l'émotion. »
Il lui fait, « Oui, sûrement. Allez, je vais vous laisser. » Et il descend les escaliers en vitesse. Arrivé dehors, l'air, le bruit de la rue, la lumière du jour, le rend tout drôle. Il demande à un vieil homme qui passe où se trouve la mairie. Il y va. La mairie est une petite maison du début des années 20. Il entre dans la mairie. Hall d'accueil, c'est sombre. C'est pas très grand. Il y a une banque avec une hôtesse grande, maigre, à cheveux châtains, habillée d'une robe grise. Elle demande « Vous désirez, monsieur ?» Elle lui dit « J'aimerais un renseignement. Ce matin est venu chez moi deux personnes me disant de la mairie pour me poser des questions, une enquête, pour savoir qui nous étions, etc. J'aimerais savoir quelles sont ces personnes. » La femme lui dit « Je ne suis pas au courant de cette enquête. Je vais me renseigner, monsieur. » Elle prend son téléphone. Fin numéro. Ici l'accueil. J'aimerais savoir s'il y a eu une enquête sur les citoyens, que l'on fait chez les citoyens. Genre enquête, combien vous êtes dans votre appartement, quel travail vous faites. Ah bon. Personne n'est allé voir les gens. Merci. Elle raccroche. Elle dit, non, il n'y a eu aucune enquête de ce genre, monsieur. Il lui dit, pourtant, il y a bien eu des personnes qui sont venues chez moi. Elle lui dit, il faut faire attention, des gens mal intentionnés peuvent entrer chez vous. Vous devez prévenir la police et la prochaine fois, ne faites pas entrer des gens comme ça. Il quitte la mairie. Une fois dehors, il se dit « Je l'ai encore perdu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas rentrer chez moi. Me voilà à la rue. Il faut que je quitte ce quartier. Autrement, je vais me faire attraper. » Et il s'éloigne. Il marche au hasard dans les rues de Paris. Pendant ce temps, Didier et Frédéric s'en retournent. Frédéric lui demande « Pourquoi as-tu voulu partir comme ça ?» Didier lui dit « Parce que je sentais quelque chose qui me disait que je devais quitter ce lieu de suite. Je n'étais pas à mon aise. Quelque chose qui était caché dans l'appartement, une bête aux aguets, qui à tout instant allait me sauter dessus. » Frédéric lui dit, tu penses trop, et il s'en retourne. Dans leur grenier, Frédéric lui dit, tes recherches t'ont mené à rien. Didier lui dit, je crois qu'ils m'ont mené à quelque chose. À quoi? Didier lui dit, à la bête, aux aguets. Et il ne parle plus de cette histoire. Frédéric se dit que ce qu'il ferait mieux, c'est de ne plus y penser. Ne plus penser à retrouver la mémoire. C'est bon de ne plus avoir de mémoire. On oublie ses pensées. Lui sait ce qu'il veut faire. Oublier son frère, sa famille et même ses études. Une vie simple sans réfléchir à des tas de choses que de résoudre des problèmes qui ne servent à rien, comme la relativité. Laissons ça aux autres. Les jours passent, la vie reprend. Frédéric est complètement rétabli. Le travail commence à manquer. Ils ont fini la peinture des façades. Il ne reste plus rien à faire. Il est difficile de trouver à se nourrir. Les commerçants ne donnent plus parce qu'ils n'ont plus de travail à leur donner. Didier essaye de faire de petits boulots qu'il demande un peu partout. Un évier à déboucher, une prise de courant à rebrancher, à aider à un déménagement, faire le ménage. Frédéric essaie de faire la même chose. Mais il y a peu de demandes. Le temps est dur. Il y a de moins en moins à manger. Un soir, Didier prépare des pissenlits au lit en salade. Il faut bien se donner l'illusion de manger. Frédéric lui dit,
« Je crois que si tu étais seul, ce serait mieux. Tu aurais plus à manger. » Didier lui dit, « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Frédéric lui dit, « Je suis un poids pour toi. Je crois que je ferais mieux, c'est de te laisser. » Didier lui dit, « Surtout pas. Qu'est-ce que je ferais tout seul? Tu m'aimes à vivre. J'ai besoin de ta présence. » Les temps sont durs pour le moment, mais ça ne durera pas toujours. Reste et ne dis pas de bêtises. Frédéric lui dit, bien, si tu le veux. Didier lui demande, et que feras-tu tout seul? Où iras-tu? Frédéric lui dit, je ne sais pas. Tu risquerais de te faire de mauvaises rencontres, et même qu'il t'arrive des choses terribles. Tu sais, il n'est pas bon de traîner dans les rues. Comme ça. Frédéric lui dit, mais toi? Moi, je ne traîne pas, je suis ici. Oui, mais avant. Avant que tu ne trouves ce logement. Didier lui dit, moi, depuis le temps que je traîne, j'ai jamais eu de choses, on m'a jamais fait de mal. Les jours passent. Il se serre les coudes. Des jours, ils n'ont rien à manger. Alors il reste au lit à essayer de dormir, à boire de l'eau pour se remplir le ventre. Frédéric a tellement faim qu'il en a des vertiges. Il ne tient presque plus sur ses jambes. C'est la première fois de sa vie qu'il a vraiment faim. Les jours passent. Des fois, le boulanger, par pitié, donne un morceau de pain à Didier. Il se le partage et s'essaye de le manger tout doucement. Le pain rassis, c'est un régal pour eux. Après-midi, Didier sort pour chercher du travail. Tout en marchant dans les rues de son quartier,
Il voit qu'on le suit. Il sent une présence. Il se retourne plusieurs fois et ne voit rien. Il continue son chemin. Arrivé à un tournant d'une rue, il tombe nez à nez sur un homme, grand, fort, cheveux et costume gris. Son visage semble fixe, étrange. Cela trouble Didier. Il dit à Didier, « Vous êtes du quartier ?» Didier lui dit, « Oui, pourquoi ?» Il se sent très gêné. L'homme lui dit, « Comme ça, je ne le connais pas et je cherche quelqu'un. » Didier lui demande, « Qui ?» Il lui dit, « Je crois avoir trouvé. J'en ai mis du temps, des années. » Didier lui dit, « Eh ben, c'est bien. » L'homme lui dit, « Oui, bien sûr, mais je sais comment faire. » Comment ? Maintenant que je t'ai trouvé, Didier lui dit, bon, eh bien, je vous laisse, l'homme lui dit, déjà. Didier lui fait, quoi ? L'homme lui dit, vous partez déjà ? Oui, j'ai affaire. Pas vous ? Moi, oui, mais... sans vous, je ne peux rien. Didier lui dit gêné. Je ne peux rien pour vous. Au revoir, monsieur. Il s'apprête à le quitter. L'homme le prend à la manche et lui dit. Nous nous reverrons. Didier lui dit. Si vous êtes du quartier, oui. Et il le quitte. Cette rencontre a fait une drôle d'impression, mal à l'aise. Ce visage, il a l'impression que c'est un visage qu'il connaît, horrible, un visage de malheur. Il se retourne, l'homme a disparu. Il décide c'est de rentrer chez lui. Après cette rencontre, il a envie de voir des choses qui lui sont familières. Il entre dans le mode. Et monte au grenier. Les gens de l'immeuble savent qu'il habite. Personne ne dit rien, parce que c'est un brave garçon qui ne fait pas d'histoire. Arrivé au grenier, il a fermé la porte. Frédéric n'est pas là. Lui aussi cherche quelque chose à faire. Le jour commence à tomber. Il va s'allonger sur son lit. Encore une fois, il n'aura rien à manger. Ils se coucheront sans avoir mangé. À moins que Frédéric trouve quelque chose à manger, avec son visage d'ange. Les dames donnent plus facilement à lui, mais s'il n'a rien, il se dit qu'il aurait dû continuer à chercher. C'est pas parce qu'il a eu une rencontre avec cet homme, mais pourquoi ? Il a eu peur de lui. À cause de son visage, il Il avait un visage rien de vraiment spécial. Un pauvre homme comme lui et rien d'autre. Il devrait sortir et continuer à faire ses recherches, peut-être qu'un jour, il devrait aller à la campagne voir les paysans et leur demander quelque chose. Il se lève. Parce qu'il va peut-être ressortir. On frappe à la porte. Il se dit, c'est Frédéric qui rentre peut-être. A-t-il trouvé quelque chose? Il va ouvrir. C'est l'homme. Il lui dit, oui? L'homme lui dit, c'est moi, je t'ai retrouvé. Didier furieux et en même temps gêné qu'on vienne comme ça et ne comprend pas. Il lui dit, quoi? L'homme lui dit, oui, je t'ai retrouvé. Didier lui dit, qu'est-ce que c'est pourquoi? L'homme lui dit, histoire personnelle. Je peux entrer? Didier lui dit, j'allais partir. L'homme lui dit, il n'y en a pas pour longtemps. Il met le pied pour éviter que Didier ne ferme la porte. Didier lui dit, alors dites-moi ce que vous avez à me dire. L'homme lui dit, c'est compliqué. Tu es parti si vite. Didier lui dit, parlez franchement et dites ce que vous avez à me dire. L'homme lui dit, c'est compliqué, je dois rentrer. Didier lui dit, je ne sais pas, je ne vous connais pas. L'homme dit, mais moi, oui. Et j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. C'est à cause de toi que j'ai fait des choses. Didier lui dit, je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Laisse-moi entrer, c'est pas bien de parler de certaines choses comme ça. Didier lui dit, bien, entrez, mais ne restez pas longtemps. L'homme entre. Didier ferme la porte. Elle lui dit, alors? L'homme lui dit, tu te souviens plus de moi? Non. Pourtant, j'étais très proche. Je t'ai connu lorsque tu étais tout petit, tout jeune. Didier lui dit, je vous remercie, mais ça ne m'intéresse pas. L'homme lui dit, pourtant, tu as tout fait pour savoir et nous retrouver. Je suis ton beau-père et j'ai toujours été gentil avec toi. Mais toi, tu as toujours refusé mon affection. Didier lui dit, je suis très ému de voir une personne qui m'a connu. L'homme lui dit, et pourquoi es-tu parti? Je ne sais pas, j'ai perdu la mémoire. L'homme lui dit, maintenant tu vas la retrouver. Il pousse Didier. Didier surpris, mais pourquoi? L'homme lui dit, tu vas te rappeler. Alors, il le pousse et le fait tomber à terre. Il se couche sur lui. Didier, apeuré, surpris, sent le corps de l'homme sur lui. Mais que voulez-vous? Lâchez-moi! Vous me faites mal! J'ai connu un ami qui faisait des grèves du corps chez les patients. J'ai assisté à une de ces opérations. C'était très palpitant. Très palpitant. Moi, ce que j'aimais, c'était les yeux et les intestins. Didier, horrifié, lui dit, non, ne fais pas mal, je vous supplie, je ne vous ai rien fait. L'homme lui dit, ça c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que vous allez me faire? L'homme réfléchit et lui dit, tu as cherché à me repousser. Me voilà, maintenant, nous ne serons plus séparés, plus jamais. Tu es à moi et à personne d'autre. Et il sort de sa poche un couteau à cran d'arrêt. Il lui dit,
Tu t'en souviens de ça? Non? Quoi? Eh bien, parce que j'avais toujours sur moi ce que je voulais te faire oublier, t'obéir, je m'en servais.
Il lui dit, je vous obéirai.
Non, c'est trop tard. Quelle bonne idée tu as eue de me chercher.
Et Didier voit le couteau au-dessus de lui.
Il en a reçu un coup en plein corps. Il est mort d'un coup.
L'homme retire la lame et la met dans sa poche. Puis se relève, regarde autour de lui. Il voit qu'il y a un porte-manteau mural, les gabardines noires de Didier. Il la prend. Il la met à Didier. En la fermant bien. Puis, il prend Didier sur son épaule et sort du grenier. Il descend les escaliers. Didier n'est pas très lourd. Il était jeune. L'homme souffle un peu à cause qu'il est resté des mois attaché dans son lit. Sa femme avait raison de se méfier de lui. Elle l'avait surpris avec un jeune garçon dans l'allée d'une façon très équivoque. L'homme, en descendant les escaliers, tombe nez à nez sur une personne. Un vieux monsieur, grand, mince, cheveux blancs, un gabardine grise. Il lui demande « Qu'est-ce qu'il a ?» L'homme lui dit « Je suis médecin. On m'a appelé d'urgence et je l'amène de suite à l'hôpital, le corps. » L'homme lui dit « Oh, pauvre jeune homme !» Il voit du sang couler. Il dit « Il y a du sang !» L'homme lui dit « Oui, c'est une hémorragie. Je dois y aller. Bien, je vous laisse. » Et il descend les escaliers. Puis, il sort de l'immeuble.
Une fois dehors, il se met en route. Il ne sait pas où il va.
Pendant ce temps, Frédéric rentre dans l'immeuble. Et monte au grenier. Faut au grenier. Il frappe, pas de réponse. Encore une fois, rien. Puis voit que la porte est ouverte. Il entre. Il se dit qu'il a dû oublier de la fermer. Didier? Pas de réponse. Didier? Rien. Il regarde autour de lui. Ne voit rien. Ferme la porte. Il n'a pas dû encore entrer. Je l'attends. Il va s'asseoir sur une caisse. Il est épuisé. Tous les jours à chercher du travail. Tous les jours. C'est pas facile. Il n'a rien trouvé. Rien trouvé, ni à manger. Il a honte de revenir comme ça,
les mains vides. Pauvre Didier, il va encore l'avoir sur le dos. Et s'il lui revient, les mains pleines de victoires, il va lui en faire profiter. Frédéric aime bien son ami. Il l'aime beaucoup. Il aimerait toujours rester avec lui. Gilles, ce n'est pas la même chose. C'est plus compliqué. Et puis, c'est philosophique et cruel. Lui, Didier, c'est simple. C'est très simple. Et puis, il a aidé, oui, aidé, secouru, lorsqu'il n'était pas bien. C'est un chic type. Le soir est tombé. L'on n'y voit presque plus. Frédéric se dit qu'il ne va pas tarder à venir. Il attend. Le temps passe. Puis se dit qu'il faudra bien qu'il l'attende en bas. On voit dans la rue. S'il ne le voit pas venir, il se lève et sort du grenier. L'allée est sombre et mal éclairée. Arrivé sur un palier, une porte s'ouvre, porte d'appartement. Apparaît un vieil homme. Lorsqu'il voit Didier, il lui dit « Ah, vous avez des nouvelles de votre ami ?» Frédéric lui dit « Quoi ? Quelle nouvelle ?» L'homme lui dit « Il a été amené à l'hôpital. » Frédéric est surpris quand, tout à l'heure, un médecin l'a amené, le corps malade, pour l'hôpital. Ça devait être grave parce qu'il faisait une hémorragie. Le sang coulait de sa gabardine. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.